Bonjour et bienvenue sur la radio Graphite. Nous sommes quatre étudiants de l'UTC aujourd'hui, avec Lisa.
Bonjour.
Camille.
Bonjour.
Et Antoine.
Bonjour.
Et moi-même, Angelina. Et on va vous parler aujourd'hui d'un sujet controversé, les animaux en laboratoire. Donc avant de se lancer dans ce qu'est l'expérimentation en laboratoire des animaux, on va voir quelles sont les idées préconçues de ça. Donc par exemple, moi, en tant qu'enfant, je pensais que faire des tests sur les animaux, c'était vraiment mettre du rouge à lèvres sur des chiens ou donner du sirop du taux pour la toux aux lapins. Et vous, quelles sont vos idées préconçues ?
Bah, personnellement, j'avais un petit peu les mêmes idées préconçues, sachant que oui, je voyais pas trop comment on pouvait tester sur des animaux du maquillage. Donc je trouvais ça pas trop déconnant de le faire, de faire mettre du rouge à lèvres à un chien, ouais. Clairement.
Bah après, moi, la même chose. Je pensais vraiment, le rouge à lèvres ou le mascara, on l'appliquait sur le lapin. Et je me suis jamais dit, en étant petite, il y a peut-être un problème, quoi. Bon, au final, c'est mieux qu'on le teste comme ça que quand on le teste vraiment dans la vraie vie, quoi.
Voilà. Alors moi, vraiment pas, par contre. Hein. Genre, j'avais vraiment l'idée science-fiction, on tue des rats, on regarde ce que ça fait.
Bref. Plus dark.
Yes.
Ouais.
Eh bien, derrière le voile de la naïveté et de l'ignorance, l'expérimentation animale se révèle être une pratique controversée pour sa légitimité et pour sa position en regard des droits animaliers. Selon les chiffres du gouvernement, on compte 2,2 millions d'animaux qui sont utilisés chaque année en France dans le cadre d'expériences. Et donc la majorité, c'est des souris, des rats, des lapins, mais il n'y a pas vraiment de limite. On peut utiliser des hamsters, des chevaux, des chats, etc. Et tous ces animaux-là, ils ont la capacité de ressentir la douleur et la peur, et ils souffrent intensément lorsqu'ils sont empoisonnés, découpés, aveuglés ou infectés par des maladies mortelles. Donc on peut se demander, est-ce que c'est justifiable de faire souffrir des animaux pour le progrès de la science ? Ou est-ce que c'est plus légitime de faire recours à d'autres méthodes par la morale ? C'est maintenant qu'on va débattre sur ce sujet-là, avec tout d'abord l'histoire de cette pratique, et ensuite on verra son application dans les différents milieux, et on débattra sur l'utilité d'une loi encadrant cette sorte de sacrifice. Je vais passer la parole à Camille qui va nous éclairer sur l'origine de l'expérimentation sur les animaux.
Oui, alors je vais vous parler un petit peu de comment toutes ces pratiques sur l'expérience animale a commencé. Donc on peut voir que ça a débuté dans l'Antiquité, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Donc il y avait des scientifiques comme Aristote qui a commencé à disséquer des animaux comme des singes et des porcs. Et il y a eu beaucoup de médecins qui ont fait des expériences sur les animaux pour étudier les parties du corps humain chez ceux qui leur ressemblaient le plus. Donc ça allait sur des dissections principalement d'animaux. Après, on a pu voir qu'il y avait quand même des dissections sur des humains morts ou vivants en public. Donc là, c'était déjà un petit peu plus corsé. Le fait était que c'était surtout des criminels condamnés qui étaient victimes de ces dissections. Mais déjà à cette époque, ça posait des problèmes du point de vue éthique, car ça reste un sacrifice humain. Donc il y avait moins de problèmes sur les animaux, mais certains philosophes, dont Pythagore, défendaient déjà les droits des animaux. J'ai pu voir aussi que un neurobiologiste et philosophe, Georges Chapoutier, disait que les scientifiques de l'Antiquité avaient déjà le souci de ne pas choquer, parce que, par exemple, Galien préférait faire des expériences sur des porcs plutôt que sur des singes, car ils ressemblaient moins aux humains. Les répercussions de nos jours, donc il y en a eu. Par exemple, il est interdit de faire des expériences sur les grands singes, à savoir les chimpanzés, les orang-outans, les gorilles, du moins en Europe. Et celles sur les autres primates sont très réglementées. Au 19e siècle, il y a eu une grande avancée au niveau scientifique, mais une régression au niveau moral, étant donné qu'il était dit que l'animal ne ressentirait pas la douleur. Or, c'est plutôt le physiologiste qui ignorait la souffrance animale, étant donné qu'il ne pouvait pas vraiment ignorer tous les cris d'agonie. Il y a eu un argument posé comme quoi on effectuait des expériences sur les animaux car c'était immoral de le faire sur des humains et que c'était nécessaire scientifiquement pour l'homme. Notamment Claude Bernard qui faisait des expériences sur des chiens et qui a malgré lui initié un mouvement anti-vivisectionniste dont ont fait partie sa femme et ses deux filles. Mais le mouvement a eu du mal à se faire entendre car il était considéré comme contre le progrès, contre la science. Et à cette époque, c'était vraiment le progrès qui primait. De plus, grâce à la vivisection, il y a eu de gros progrès en médecine, comme les greffes et les transplantations dont on peut encore aujourd'hui bénéficier. À la fin du 19e siècle, il y a eu l'apparition de législations visant à encadrer l'expérimentation animale. Il y a eu le développement de l'anesthésie, ce qui a calmé les mouvements anti-vivisectionnistes. Et depuis le XXe siècle jusqu'à nos jours, il y a eu des progrès considérables dans le domaine de la médecine, pour qu'il y ait ces progrès, il a fallu qu'il y ait une utilisation massive qui se généralise, par rapport à ces pratiques. Pour avoir un petit ordre d'idée, on est à plus de 70 prix Nobel qui ont récompensé des expériences sur des animaux. Et de nos jours, à l'échelle mondiale, il y a près de 115 millions d'animaux victimes d'expériences en laboratoire chaque année. Donc là, aujourd'hui, on a de plus en plus de réglementations européennes strictes qui apparaissent pour encadrer l'expérimentation animale, les pratiques, etc. Mais évidemment, ça n'efface pas les atrocités qui ont déjà été commises tout le long du XXe siècle. Donc, j'en ai fini pour l'histoire de ces pratiques par rapport à l'expérimentation animale en laboratoire. Et je vais maintenant passer la parole à Antoine, qui a effectué un micro-trottoir et qui pourra nous en parler plus en détail.
C'est ça. Alors, on est parti interroger des gens dans la rue pour savoir ce qu'ils pensaient de personnes qui se font payer par des laboratoires pour tester des produits, qu'ils soient pharmaceutiques ou autres.
Mes amis qui faisaient ça il y a longtemps, quand ils étaient étudiants d'ailleurs, ils allaient dans des endroits, des laboratoires, ils restaient hospitalisés pendant tant de jours pour tester des produits, mais c'était des produits qui avaient déjà été testés précédemment sur autre chose que des humains pour éviter qu'il y ait des problèmes, quoi. Mais après, ouais, de toute façon, pour faire avancer la recherche, je sais pas, sur le cancer, des choses comme ça, effectivement, il y a des gens qui peuvent être volontaires. Après, une personne, moi, je serais super malade, je serais en phase finale de cancer ou quoi que ce soit, on me proposerait de tester un nouveau produit pour pouvoir sauver d'autres vies. Ouais, je le ferais peut-être, ouais.
Donc ça, c'est le premier interview, mais on va garder les réactions de côté. On va d'abord écouter les deux autres que j'ai et puis on en parlera après.
C'est un peu dangereux, je pense, parce qu'à mon avis, les gens qui font ça, c'est des gens qui sont dans le besoin. Et du coup, ça met des gens à risque alors que... ils font pas ça forcément de plein gré, je pense.
Ouais, je pense, parce que déjà on leur demande le choix et ils sont consentants pour le faire. Donc, okay. Ouais, moi je trouve que c'est une bonne alternative. Ouais.
Voilà, donc moi je trouve que sur le premier, il y a déjà quelque chose de très intéressant qu'on peut soulever. C'est qu'il parle de s'il avait une maladie incurable, il serait plutôt pour. Qu'est-ce que vous en pensez de ça justement? Est-ce que vous aussi, dans votre cas, si vous aviez une maladie grave ou une phase terminale de quelque chose, est-ce que vous serez prêt à tester un traitement ou essayer de sauver des vies après vous?
Moi, je suis d'accord parce qu'on n'a rien à perdre. Et souvent, les gens qui sont atteints de cancer, ils sont prêts à tester des méthodes qui ne sont pas encore finies.
Ok.
Après, d'un autre côté, ça peut être ça dans le sens, on n'a plus aucune solution, donc on teste tout et puis on verra bien. Peut-être que ça nous donnera quelques mois de plus, on n'en sait rien. D'un autre côté, il y en a quand même pas mal qui, justement, sur la fin de leur vie, ils veulent la passer tranquille, en dehors d'un hôpital, en dehors des expériences. Donc peut-être que rien que ça, ils vont se dire « Bah non, je vais pas tester, je vais passer ce qui me reste. Au moins, je suis sûre qu'il me reste ce laps de temps pour être avec mes proches. » Et voilà, quoi.
Moi, après, je comprends vraiment les deux points de vue. C'est vrai que je pense plus vers le côté d'Angelina, c'est-à-dire que je pense que ce serait bien... enfin. Si j'étais en phase terminale, entre guillemets, j'aimerais bien tester différentes expérimentations pour voir si déjà ça peut me guérir, mais est-ce que ça aura un impact sur les autres personnes qui auront la même maladie que moi, et est-ce que ça pourra les sauver ou pas? Et je pense que c'est bénéfique à la fois pour soi et à la fois pour les autres personnes qui ont cette même maladie, entre guillemets.
Ouais, c'est ça, parce que du coup, après, c'est des gens après toi qui vont en bénéficier, en fait, de ton sacrifice. Ouais,
ouais, d'un autre côté, c'est... disons que c'est pas égoïste pour les autres gens qui auront la même maladie que toi, par exemple, mais ça peut le devenir égoïste pour, par exemple, tes proches qui veulent passer plus de temps avec toi. Et on sait jamais si, par exemple, le médicament est pas compatible sur toi, et du coup, ça réduit encore ton espérance de vie. Donc, t'en sais rien. Je pense vraiment qu'il faut, soit être hyper empathique par rapport aux gens qui vont passer derrière toi, soit être pas, enfin je sais pas, pas si proche de sa famille que de ses amis, je sais pas.
Bah après, si tu sais déjà qu'il te reste un certain temps à vivre, genre si on te dit il te reste 2 ans, bah honnêtement je vois pas quel est le problème à juste vivre 2 ans en essayant un traitement, et bah s'il marche tant mieux.
Ça dépend, le traitement peut te faire souffrir.
Donc, ouais, ça c'est pas
tu
faux.
Tu peux être, je sais pas, peut-être imagine les 2 ans là, tu vas les passer, bah tu sais que tu vas décéder au bout de ces 2 ans, mais peut-être que tu vas pouvoir vivre normalement avec tes proches, etc. Et alors que si tu testes ce remède, bah peut-être que, je sais pas, tu seras obligé d'être cloué au lit, d'aller tout le temps à l'hôpital et tout, et puis ça, franchement, ça va te gâcher tes derniers instants, si je puis dire.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
En fait, je crois que c'est juste, en fait, si tu acceptes la mort ou pas. Il y en a qui se disent, la mort vient, je vais mourir naturellement, c'est pas grave, enfin, c'est la vie. Et il y en a qui disent, non, je vais me battre jusqu'au bout, j'ai vraiment envie de vivre, de continuer, ouais, etc.
Mais du coup, quand tu dis je vais vraiment continuer à vivre, ce serait plutôt quoi? Ce serait,
ça serait dans l'expérimentation.
Ok.
Parce qu'en fait, tu es prêt à souffrir. Alors, parce qu'en fait, tu sais pas vraiment quels sont les effets secondaires. Et ça peut être pire que ce que tu as en ce moment, en fait.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ouais, tu es vraiment désespéré à tout tenter pour essayer de vivre plus, quoi.
C'est ça, ouais.
Et dans le deuxième interview, du coup, l'interrogée, elle parle de gens qui sont dans le besoin, qui effectueraient ça. Est-ce que vous... Moi, ça me pose problème personnellement. Est-ce que vous voyez aussi que ça peut poser problème le fait de proposer de la rémunération derrière, parce que du coup, ça attire forcément des personnes qui seraient un peu plus dans le besoin, qui tendraient vers ce genre de rémunération?
Personnellement, je pense que c'est un petit peu profiter de leur faiblesse, dans le sens, ils sont dans le besoin, et du coup, toi, bah, tu vas t'en servir et tu vas dire, bon, bah, tenez, j'ai de l'argent dans les poches là, je peux vous en donner si vous faites ça. Donc, c'est un petit peu profiter de leur mal-être, quoi.
Après, moi, c'est plus remettre en cause le consentement de la personne. C'est-à-dire que, en fait, il y a une fille, je crois, qui en a parlé. C'est, tu peux être consentant à faire quelque chose parce que bah, tu penses que tu as envie de le faire et tu as envie d'aider les gens et faire avancer la science, entre guillemets. Mais il y a aussi cette idée de consentement un peu économique. C'est-à-dire, tu es dans le besoin, tu as besoin d'argent. Ça, entre guillemets, c'est simple. Tu te fais, on va dire, tu fais une prise de sang, tu fais des expérimentations et tu reçois de l'argent derrière. Mais après, moi, je trouve ça normal de recevoir de l'argent pour ce genre de choses. Parce que c'est pas gratuit, quoi.
Bah après, moi, c'est... Je le ferai pas pour de l'argent, mais je le ferai pas pour rien non plus, en fait. Je pense que l'argent, ça doit pas être la première motivation qu'il y a derrière ça. Mais s'il y a pas d'argent non plus, je vois pas quel est l'intérêt, ouais, à le faire, en fait.
L'argent, enfin, tout dépend du sens dans lequel ça va. C'est, est-ce que tu le fais parce qu'il y a de l'argent proposé, ou est-ce que c'est...
ou est-ce que c'est pour l'argent qui est proposé, justement?
Ouais.
C'est, il y a une nuance, en fait.
Bon, en soi... Je pense aussi que le consentement, il peut pas être totalement consenti, dans le sens où, évidemment, si tu mets un dilemme comme ça, tu te dis, ça se trouve, c'est le dernier moyen pour avoir de l'argent. Et tu vas accepter, alors qu'en temps normal, tu n'aurais pas accepté si tu n'étais pas dans le besoin, par exemple. Tu vois, genre, ça, c'est problématique.
Ouais. Et Angelina, du coup, tu en penses quoi?
Moi, je suis... Pas sûr, parce que d'un côté, il y a le consentement. D'un autre, en fait, l'alternative pour tester sur quelque chose d'autre sur les animaux, que les animaux, ce serait les humains, parce que c'est des organismes vivants. Donc, vaut mieux rémunérer, déjà, t'as ça, et vaut mieux que ce soit ceux qui sont consentants, et s'ils sont dans le besoin, pourquoi pas, tu vois. Mais après, oui, c'est bizarre de se dire, je suis prêt à souffrir, à être un cobaye, quoi, juste pour de l'argent. C'est une priorité de l'argent sur la santé, en fait.
Ouais. On passe à la suite, du coup.
D'accord.
Et ben... on va passer à Angelina, qui va nous parler de sa partie. Je te laisse...
Alors moi, je présente les différents domaines où il y a de l'expérimentation sur les animaux. Donc il y en a 3 principaux, c'est le domaine médical, cosmétique et le milieu de la mode. Donc tout d'abord, on va parler du milieu médical. Donc pourquoi est-ce qu'on fait recours aux animaux? En fait, c'est parce que c'est des êtres vivants, des organismes qui se rapprochent le plus aux humains. Et donc c'est mieux de tester sur des animaux que sur nous, en fait. C'est un peu...
C'est la vie scientifique,
quoi. C'est controversé. Mais oui. Donc les réussites du milieu médical grâce... à l'expérimentation sur les animaux. Parce qu'en fait, moi, je trouve que c'est légitime de tester sur les animaux dans le contexte du milieu médical. Dans les autres, je trouve que c'est totalement illégitime. Mais pour le milieu, pour le milieu médical, ça a permis de faire beaucoup de progrès. Donc, grâce aux tests sur les animaux, on a découvert des antibiotiques, l'insuline, des vaccins, et on a aussi pu développer des techniques chirurgicales comme les greffes d'organes ou des implants grâce aux animaux. Donc, par exemple, on a l'insuline. L'effet de l'insuline sur le traitement de l'hypoglycémie a été découvert lors d'études menées sur des chiens. Mais maintenant, elle est produite grâce aux levures et des bactéries génétiquement modifiées, alors qu'avant, on l'obtenait grâce au pancréas de bovins et de porcs abattus. Donc là, on voit qu'en fait, l'expérimentation sur les animaux, c'est la base de départ, mais après, on évolue et on trouve des solutions qui évitent cette technique. L'étude de neurosciences a été faite sur les chimpanzés, parce que leur cerveau est très similaire au nôtre. Et on a aussi, par exemple, l'exemple du Covid, le développement des vaccins, qui ont été testés sur des souris, des furets, etc., parce qu'ils présentaient des symptômes similaires à ceux des humains. Maintenant, l'argument contre. Alors, on a par exemple l'association PETA, qui dit qu'en fait, c'est totalement illégitime de faire des tests sur les animaux, parce que leur réaction physiologique aux médicaments varie énormément d'une espèce à l'autre, et aussi des animaux à l'humain. Donc on a par exemple la pénicilline qui tue les cochons d'Inde mais qui est inactive chez les lapins et la morphine qui est un tranquillisant chez l'humain qui stimule les chèvres, les chats et les chevaux. Donc pourquoi est-ce qu'on s'efforce de meurtrir des animaux pour qu'au final ça ne soit pas un bon support? J'avais vu une étude qui disait que 9 sur 10 des tests n'étaient pas, qui marchaient sur les souris ne marchaient pas sur les hommes. Donc on peut dire bah, c'est une faible proportion, donc vraiment... Est-ce que c'est la meilleure solution? Mais pour moi, l'expérimentation sur les animaux dans le milieu médical reste quand même irremplaçable parce qu'elle s'applique à des organismes vivants dans leur intégrité et leur complexité. On a par exemple les mouches drosophiles qui nous permettent d'observer des mutations sur 20 générations dans l'espace d'un mois, ce qu'on ne peut pas faire sur les humains par exemple. Ils permettent d'apporter des réponses que l'on n'est pas capable d'anticiper dans des modèles simplifiés. Donc maintenant, on va passer au milieu cosmétique. C'est où je trouve que c'est vraiment immoral d'utiliser des animaux parce que tout ce qui est cosmétique, c'est pas indispensable à notre vie quotidienne. Et aussi, l'expérimentation a ses limites parce que les animaux et les humains réagissent souvent de manière différente. Donc les résultats sont pas souvent très fiables. Et les expérimentations... elles se font sans soulagement de la douleur, etc. Donc on a des tests d'irritation de la peau et des yeux, où des produits chimiques sont frottés sur la peau rasée ou versés dans les yeux de lapin. Il y a des tests qui délivrent des doses de substances chimiques à des souris par gavage forcé répété. Et il y a même des tests de doses létales, où des rats sont obligés d'avaler des grandes quantités de produits chimiques pour déterminer la cause de mort, enfin la dose de mort. Donc c'est brutal, et ces tests ils durent souvent très longtemps, des semaines ou des mois, pour voir s'il y a des signes de maladie générale ou des risques spécifiques sur la longue durée, comme le cancer par exemple. Et à la fin, bien sûr, les animaux sont tués, on les asphyxie, on leur brise le cou, on les décapite. Ah, mais pourquoi ? Parce qu'on a fini de les utiliser, quoi.
Mais ils peuvent pas juste les relâcher derrière ?
Non, parce que c'est des animaux en laboratoire, c'est pas des animaux en liberté que tu prends... Ils ont vraiment juste des buts. Leur vie, c'est pour la science. Ah
ouais. Les animaux qui sont élevés en laboratoire, ils ne peuvent plus aller chasser correctement après.
C'est vrai. Ouais, ils sont mutés et tout.
Ouais, après, je crois qu'il y a des associations qui te permettent, par exemple pour les souris ou les rats, d'adopter des souris en laboratoire. Donc, il y a de plus en plus d'associations qui essaient de les sauver, entre guillemets, justement de ce destin un peu cruel de se faire tuer à chaque fois. Quoi.
Ouais, mais après, c'est une souris, depuis qu'elle est née, elle s'est pris des produits chimiques.
Elle a beaucoup de trauma, quoi.
Ouais, mais après, ouais, je pense que ça dépend des circonstances. Après, je sais pas trop, mais après, je trouve ça toujours mieux de sauver un animal, entre guillemets, que de lui casser le cou, quoi.
Ouais. On est bien d'accord là-dessus.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus en plus de lois qui bannissent l'utilisation des animaux dans le milieu cosmétique.
Surtout que c'est un peu de l'usage unique, quoi. C'est vraiment...
Ouais, c'est vraiment.
Ça sert d'outil, quoi.
Et donc, maintenant, le milieu de la mode. D'abord, j'ai envie de faire une distinction entre le label vegan et le label sans cruauté. En fait, un produit, il peut être vegan, mais être testé sur les animaux, en fait. Et l'inverse, un produit sans cruauté peut être En fait, je suis pas sûre. Je vais pas dire de bêtises. Donc, pour moi, dans le milieu de la mode, la cruauté animale, c'est plus de la cruauté que de l'expérimentation. Parce que c'est vraiment juste une expression artistique, en fait. C'est vraiment... on n'est pas en train de se fixer un objectif. Non, en fait, pour moi, c'est la cruauté. Tu peux pas argumenter dans la faveur de la mode, en fait. Tu utilises des vies pour des vêtements, pour des sacs, pour des chaussures. Tu vois, c'est pas très justifiable pour moi. Et en fait, on a vu que c'est devenu un outil de marketing. Donc, on a... D'être sans cruauté animale. Donc, on a Chanel, Versace et Armani qui se disent fur-free, etc. Et même dans le milieu cosmétique, quand ils disent sans test sur les animaux, ça te dit « Oh ouais, c'est trop bien, je vais acheter ça, je fais une bonne chose pour la planète, etc. » Mais en fait, ils peuvent totalement mentir sur ce fait-là. Ils peuvent tester sur les ingrédients sur les animaux, mais pas le produit fini.
Ah ouais, ok.
Tu vois. Donc, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que quand vous achetez du cuir, vous y réfléchissez? Vous réfléchissez à l'animal qui est derrière ça?
Bah personnellement, pas du tout.
Ouais, moi non plus.
Genre, vraiment, bah surtout qu'en général, par exemple, tu vas acheter une paire de chaussures, tu te dis, je vais prendre des chaussures en cuir parce que ça va me tenir longtemps. Et c'est plutôt à ça que tu penses, plutôt qu'il y a un animal qui a souffert derrière, quoi.
Ouais.
Donc non, personnellement, j'ai pas du tout ce réflexe de penser à ça. Je sais pas vous, mais...
Moi, après, par exemple, j'ai mes très belles docs, qui sont des docs vegan. Après, certes, ça a un coût. Ça coûte plus cher, entre guillemets, d'acheter, par exemple, des Doc Martens qui sont vegan que plutôt que des Doc Martens qui sont en cuir directement. Mais ce dont tu parlais, la durabilité, après, je pense que ça dépend aussi de la qualité du produit et aussi ce que la marque, entre guillemets, fabrique d'habitude. Mais je sais que, en général, mes docs, les ai depuis 4 ans, tu vois, et elles sont un peu de la même qualité que mes anciennes, qui étaient en cuir cette fois. Et je me suis dit, pourquoi pas acheter des Doc Martens, enfin des chaussures en général, qui peuvent, entre guillemets, ne pas coûter la vie à un animal, entre guillemets.
C'est sûr.
Alors moi, souvent, j'y pense, mais après coup, ça veut dire que je vais acheter quelque chose en cuir, puis après, je vais me dire, ah, c'est du cuir. Donc, je sais pas ce qu'il faudrait faire. Est-ce qu'il faudrait mettre peut-être avertir plus ou essayer de...
Après, c'est sûr que c'est un truc qui n'est pas du tout communiqué. Enfin, pas du tout, mais tu vas pas avoir des gens qui vont dire partout dans la rue que « Oh là là, t'as acheté des chaussures en cuir. » Et puis, du coup, toi, ça va te passer au-dessus et puis tu vas pas réagir au fait que t'as acheté un truc en cuir, quoi.
En fait, c'est pour dire... En fait, c'est vraiment banalisé. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. C'est vraiment banalisé, en fait, dans le milieu de la mode. Par exemple, moi, quand quelqu'un achète un portefeuille et qu'il voit que c'est du cuir, il dit « Oh ouais, trop bien, c'est du cuir, c'est de la bonne qualité. » C'est pas du tout à mince, c'est du cuir. C'est une substance...
C'est plutôt une qualité, en fait.
Voilà, c'est ça.
En même temps, c'est, entre guillemets, c'est mieux. Enfin, on s'est habitué à se dire « Ouais, le cuir, c'est mieux. » Alors que, par exemple, le simili-cuir, c'est cette matière où tu te dis... la qualité va être moindre et t'as pas envie d'acheter ça, entre guillemets.
Surtout que le simili-cuir, il a vraiment été associé à du low budget, à vraiment du toc, un peu, entre guillemets. Donc,
Ouais. On va passer au quiz, maintenant, de Camille.
Oui, alors, étant donné qu'on parle de choses fort joyeuses, j'ai décidé de vous préparer un petit quiz pour plutôt s'intéresser aux faits auxquels on ne s'attend pas, forcément, par rapport aux animaux, par rapport aux animaux de laboratoire, par rapport aux faits qui sont vraiment différents de nous. Donc, je vous propose 5 questions. Je ne sais pas si vous êtes prêts à répondre.
Ouais.
Allez, on est prêts.
Donc, première question, c'est un vrai ou faux par rapport à cette affirmation. On a découvert qu'un chien avait communiqué avec sa maîtresse avec des mots, pas juste il a aboyé, vraiment avec des mots. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
C'est faux.
C'est faux.
Moi, je dis c'est vrai, on ne sait jamais.
Eh bien, Lisa, tu as raison. C'est vrai, mais disons que le chien n'a pas parlé comme je vous parle en ce moment. Et c'est sa maîtresse qui a mis en place un système de boutons où, elle avait des boutons qui disaient le mot. Et le chien pouvait appuyer dessus, et il entendait le mot, etc. Et elle a passé des mois à lui apprendre. Donc au départ, elle avait un système de 3 boutons. Donc par exemple, boire, manger, jouer, toutes des choses comme ça. Et donc elle a commencé à lui apprendre ça. Et puis elle a fini avec un système de 48 boutons, il me semble, donc, où le chien avait vraiment appris tout ce qu'il voulait dire. Et il avait aussi appris, donc pas seulement à dire qu'il avait faim quand elle avait, elle lui avait pas encore donné à manger, mais par exemple, une fois, elle était en train d'arroser son jardin, et le chien l'a regardé. Il est parti appuyer sur le bouton haut, et il est revenu pour un petit peu lui signifier qu'il avait vu qu'elle était en train d'arroser ses plantes. Enfin, après, c'est une interprétation, mais sur le moment, son chien n'avait pas du tout besoin de boire. Donc, c'est l'interprétation qu'elle en a fait. Pareil, à un moment, elle était au téléphone et son chien a voulu... Enfin, n'arrêtait pas d'aboyer et d'appuyer sur les boutons « Viens jouer, jouer, viens jouer, enfin, sortir. » Son chien voulait sortir, quoi, voulait jouer avec elle. Et comme elle était au téléphone, elle n'était pas occupée. Et le chien a fini par appuyer sur les boutons. Je t'aime, non. Donc je sais pas si c'était vraiment comment l'interprétation du fait qu'il était frustré ou quoi que ce soit, mais en tout cas c'est ce qu'il a fait. Donc après on peut toujours.
Après s'imaginer les choses. Les boutons, ils avaient quelque chose de différent ou bien il a juste retenu la position.
Non, c'était parce qu'en fait à chaque fois que t'appuies sur un bouton, ça dit le mot.
Ok. Ouais,
et voilà.
Et après il a ce qu'il veut.
Mais après c'est la réaction en fait. Je pense que c'est pas genre il a compris le mot. Je pense que c'est plus par exemple pour la nourriture manger, il voit que sa maîtresse va lui servir à manger. Pour la balade, il voit qu'il va être baladé. Donc en fait finalement c'est pas vraiment une réflexion, c'est pas comme nous entre guillemets où vraiment on réfléchit, on a un sens. C'est plus ce qui va découler de sa maîtresse derrière, quoi.
C'est sûr. Après comme je dis la première fois quand il a vu sa maîtresse arroser ses plantes, il a vu de l'eau et il a appuyé sur le bouton haut. Donc, alors qu'il n'avait pas forcément envie de boire, donc on peut toujours se poser des questions par rapport à ça. Bon, en soi, toujours est-il qu'il a pu communiquer avec sa maîtresse avec des mots. Deuxième question, qui sont plutôt... Alors, laquelle de ces affirmations est vraie ? Les poissons éternuent. Les singes ont le sens de l'humour. Donc, comme on l'entend. Hein. Une espèce de grenouille saute à cloche-pied. Il existe 3 espèces de serpents qui changent de couleur après leur première mue.
Il n'y en a qu'une qui est vraie ?
Il y en a une qui est vraie parmi ces 4.
Moi, je pense que les singes, c'est des comiques et ils ont le sens de l'humour.
Ah, moi aussi, les singes.
Bah, après, moi, je pense aussi aux serpents.
Ouais, aussi, c'est vrai, mais une. Donc...
Très bien. Eh bien, on a 2 gagnants. C'est en effet les singes qui ont le sens de l'humour. Enfin, comme on l'entend, c'est une supposition. Mais par exemple, dans une réserve où il y avait donc, des singes, il y a celui qui s'est occupé de la réserve qui a débarqué, donc il a jailli d'un buisson avec un masque de panthère. Donc au départ, les singes ont tous eu peur, ils se sont enfuis et ils lui ont balancé des cailloux. Et à la fin, quand il a enlevé son masque pour dire un petit peu « c'était une blague », donc c'est les plus anciens singes de la réserve qui ont commencé à rire. Donc après, ça peut, comme précédemment, ça peut s'interpréter comme on veut, mais... Là, on a plutôt l'impression que c'est vraiment du sens de l'humour ou il nous a fait une blague, tout ça, tout ça.
Après, je sais qu'ils sont aussi sensibles aux tours de magie. J'avais vu une vidéo comme ça où c'était pareil, quelqu'un qui travaillait dans un zoo, qui avait fait un tour de magie à un singe. Et en fait, tu voyais l'incompréhension et vraiment, tu voyais qu'il rigolait.
Ah ouais. Donc, un autre, laquelle de ces affirmations est vraie ? Donc, j'en ai 4. Les vers de terre ont des yeux. La mortalité du venin d'un scorpion est proportionnelle à sa taille. Les rats montrent les comportements de base de l'empathie. Les chiens les plus petits meurent plus rapidement.
Tu peux répéter la troisième, s'il te plaît ?
La troisième, les rats montrent les comportements de base de l'empathie.
Je pense que les rats montrent le comportement de base de l'empathie.
Et la première, c'était quoi déjà ?
La première, c'est les vers de terre ont des yeux.
Réflexion. Je sais pas, Angelina, toi ?
Moi, franchement, je sais que la première, on va dire, elle est fausse. La deuxième, elle est fausse. Donc, c'est entre les deux dernières. Je vais choisir les rats.
Moi, je dirais les vers de terre. Je
sais pas pourquoi. Très bien. Alors, la bonne réponse était... Les rats montrent les comportements de base de l'empathie. Donc oui, les vers de terre n'ont pas d'yeux.
On sait jamais, tu sais, en dessous.
Peut-être, ouais. Caché à l'intérieur. Mais bref. Donc en fait, oui, on a encore fait des expériences, à savoir qu'on a enfermé un rat dans une petite boîte et qui pouvait s'ouvrir uniquement de l'extérieur. Et à l'extérieur de la boîte, on a mis un autre rat Et il a vu que le premier rat était en galère, enfermé dans sa boîte. Et au bout de quelques tentatives, il a réussi à l'en sortir. Et donc, on a répété l'expérience plusieurs fois sur différents rats, etc. Et donc, on a découvert que si, par exemple, le rat avait, était d'une espèce A et avait grandi toute sa vie dans une population de rats d'une espèce B, et bien, en fait, il avait tendance à libérer les rats de l'espèce B, donc différentes de la sienne, et pas le rat qui avait la même espèce que lui. Donc vraiment, par rapport au fait qu'il ait grandi dans cette population. Ça, pareil, par rapport au fait que c'était si le rat connaissait le rat qui était enfermé. Que des choses comme ça, quoi. Donc, suivante. Un vrai ou faux ? On a transplanté un rein de porc sur un humain.
C'est vrai. Ça, je l'ai vu.
Vous avez vu ? Eh bien, en effet, c'est vrai. Donc, c'est une expérience qui a été faite. On a transplanté un rein de porc sur un humain. Donc, là, on a pu...
coup dans le micro, là.
On a pu voir que le rein était totalement fonctionnel. Donc, il faisait son rôle de rein. Après, c'était vraiment une expérience... on peut pas dire qu'ils en aient conclu qu'ils pourraient faire sur les prochaines transplantations à chaque fois un rein de porc. Donc c'est encore en cours de recherche, mais quand ils ont fait les relevés, on a pu voir que le rein faisait son travail de rein, quoi.
Mais après, moi je personnellement, je crois que c'est possible d'avoir un cœur d'animal. Parce qu'il me semble que j'avais une connaissance, entre guillemets, qu'il y avait une maladie, et on lui avait proposé de remplacer son cœur par pas un cœur mécanique, mais vraiment un cœur d'animal. Donc, je sais pas si c'était...
Alors après, en soi, si ça fonctionne et qu'il n'y a pas de danger, pourquoi pas
comme on disait au tout début, si c'est le dernier recours, par exemple, peut-être qu'ils ont voulu tester et que ça a fonctionné, enfin, je sais pas trop.
Ouais, après, si c'est vraiment le dernier recours, ouais, moi je pense que c'est plutôt une bonne solution parce qu'en soi ça permet de éviter de prendre un cœur humain. Après, forcément, c'est sur des gens qui sont en mort cérébrale, il me semble. Mais s'il y a personne qui est là pour faire un don, tout simplement,
Mais après, tu as les cœurs mécaniques aussi, tu sais. Il y a des cœurs qui sont mécaniques, mais le problème c'est que très souvent. Il y a des problèmes au niveau de, entre guillemets, programmation, etc., etc. Et ça tend à s'arrêter et donc à tuer la personne immédiatement. Donc, c'est vraiment pas fiable pour le coup.
Ouais. Sinon, j'ai une source qui est absolument pas scientifique. C'est dans Le Flambeau. Il y avait une fille qui a un cœur de gorille. Et du coup, elle se comportait un peu comme un gorille. Mais voilà. Il n'y a aucun support scientifique.
Je pense que c'est vraiment de l'humour après. Ouais.
Très bien. Dernière question. Vrai ou faux ? On a modifié génétiquement des drosophiles, donc des mouches, pour faire apparaître des yeux sur leurs pattes.
Alors ça m'étonnerait, mais d'un autre côté, pas trop.
Pourquoi faire, en fait ?
Ce serait à mourir de rire.
Pourquoi ? Moi, je demande d'avoir une photo de la mouche.
Moi aussi, mais pourquoi faire ?
Ça ferait mal.
C'est vrai que c'est inutile, mais...
On va dire vrai.
Ouais, vrai.
Tout est possible, ok.
Soyons fous, hein.
Tout le monde dit vrai. Eh bien, tout le monde a raison. Wow. En effet, donc, une expérience scientifique qui a voulu modifier les gènes de drosophiles pour faire apparaître des yeux sur leurs pattes, il me semble, sur leurs ailes aussi, ils ont changé un gène pour faire ça.
Mais donc... des yeux fonctionnels ?
Alors ça, je sais pas du tout, juste des yeux. Enfin, des yeux qui ressemblent à des yeux de mouche, quoi.
Mais la question, c'est pourquoi faire ?
Mais moi, je demande d'avoir une photo de la...
Ça n'a pas d'utilité. Hein. C'est vraiment pour le défi scientifique de... tu modifies génétiquement, quoi.
Ouais, mais ça, après, par ça veut exemple, dire... c'est... Non.
Enfin... On est c'est après, ça veut dire qu'on est capable de mettre des yeux sur une patte de mouche, quoi. Donc,
Ouais, mais tu vas faire quoi ? Enfin, la mouche, tu l'écrases...
Mais non, mais en fait, le truc, c'est que ça peut servir à faire peut-être des trucs après, en fait. C'est ça, le truc, c'est...
On teste pour l'instant sur la mouche et après...
Oui, ou alors là, c'était juste...
C'est qu'on sait qu'on est capable de créer quelque chose à partir de quelque chose qu'on n'a pas.
Ouais.
Donc déjà, on sait ce qu'on sait faire et vaut mieux le faire sur des mouches, je pense que...
Mais même si on fait ça, imaginons sur un chien qu'il ait plusieurs yeux, après...
Bon, en soi, c'est pas méga utile, surtout de les faire apparaître sur ses pattes, quoi.
Ouais, les faire apparaître sur ses pattes,
c'est pas... Mais ils ont pu choisir où ils les mettaient ? Ou c'est vraiment juste, oh, il y a des yeux
J'ai pas eu de détails, hein, vraiment, j'ai fait des recherches, mais je t'avoue qu'il n'y a pas énormément de... Je pense pas que les gens s'en vantent beaucoup, que ça... Comme vous, enfin, comme on peut voir votre réaction.
Ça se trouve, c'était une erreur.
Non, clairement, c'était intentionnel.
Ah ouais,
mais, ouais, c'était intentionnel. Après, je sais pas si ils ont eu l'intention de, vraiment, les yeux seront sur les pattes, ou... Enfin, bref, voilà. Donc... Bah voilà, j'ai fini pour ce quiz. Vous êtes toujours sur Graphite. Je vais maintenant... on parle des expériences sur les animaux de laboratoire. Je vais maintenant passer la parole à Antoine qui va nous parler un petit peu des actualités de ce sujet. Donc vas-y Antoine, c'est à toi.
Tout à fait. Donc moi, je voulais vous parler un peu de l'expérimentation de manière générale, où on en est au niveau de la législation là-dessus et toutes sortes d'alternatives, etc. Donc l'expérimentation de manière générale est obligatoire et elle ne peut pas être évitée. Pas seulement animal, mais on est obligé au bout d'un moment, avant de commercialiser un produit qui soit pharmaceutique, une crème beauté, toutes sortes de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, on est obligé de les expérimenter. Mais on est confronté à un problème, c'est qu'il y a très peu d'humains qui veulent être le premier cobaye. L'expérimentation, du coup, elle est nécessaire, mais le nombre de personnes volontaires pour tester un médicament est faible. Bien que certains laboratoires soient prêts à payer très cher des personnes qui choisissent de servir de rats de laboratoire et deviennent les premiers cobayes humains, le nombre de personnes qui souhaitent continuer à tester ces médicaments sont très faibles et il y a très peu d'appelés en fait tout simplement. Donc les laboratoires se tournent de plus en plus et depuis déjà un moment sur les animaux qui réagissent comme les humains. Mais ça suscite énormément de questions parce que les animaux, ils sont, c'est des êtres vivants et ils sont comme nous capables de ressentir la chaleur, la peur, la douleur et plein d'autres sentiments. En plus, l'expérimentation animale, dans 9 cas sur 10, comme tu l'as dit Angelina tout à l'heure, ça sert à rien et ça rallonge les procédures. Mais de l'autre côté, en France, on a une loi qui est assez bien faite, qui régit justement cette expérimentation animale. Je sais plus où j'en suis, je suis désolé. Donc du coup en France on a une loi qui régit l'expérimentation animale, aussi bien sur l'expérimentation que sur toute la logistique qu'il y a autour, comment on se fournit en animaux, comment on les transporte, comment on les loge, tout ça c'est aussi réglementé par la loi, donc ils sont pas non plus dans des casiers, dans un hôpital, tout est assez bien fait en France en tout cas. Beaucoup de questions sont quand même toujours là. Faut-il mettre en place d'autres moyens d'expérimenter un traitement médical? Des solutions autres sont-elles réellement envisageables? Est-ce qu'on peut tester directement sur des humains? Est-ce pour autant éthique de tester directement sur des humains? Et à première vue, on n'a pas vraiment d'alternative, donc ça paraît plutôt indispensable. Mais c'est complètement faux. On a des alternatives qui sont aujourd'hui la modélisation informatique ou les méthodes in vitro. Le problème, c'est qu'elles sont assez peu utilisé. Donc, au niveau fiabilité, c'est pas tout à fait ça. On sait pas vraiment... une fois qu'on a modélisé un système informatique, ça peut nous retransmettre quelque chose qui finalement ne reflète absolument pas la réalité. Et il y a un nouveau projet de loi qui est en cours d'établissement qui obligera les laboratoires à des études sur l'éthique des recherches de ces derniers laboratoires qui... seront obligés du coup de publier une revue éthique sur comment ils servent de leurs animaux, comment ils les logent, comment tout ça se passe. La loi aussi projette de s'assurer que le logement de ces animaux est vraiment décent, qu'ils ne sont pas juste stockés. Et en plus, cette nouvelle loi proposera que ce soit seulement les animaux de deuxième génération qui soient le plus utilisés, avec une période de transition les habituant aux animaux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, en gros, qu'on va d'abord prendre un animal et l'habituer au milieu hospitalier, au milieu laboratoire, pour après, une fois qu'il soit un peu déstressé, entre guillemets, le tester des produits sur lui. Et enfin, le plus important pour moi, c'est que la loi va surtout s'assurer que les alternatives sont utilisées quand elles sont possibles. C'est pour ça que je voulais vous emmener sur un débat aujourd'hui qui est-ce que vous pensez que toutes ces lois, elles suffisent pour essayer de limiter le débat? Est-ce que ces lois, c'est assez ou pas? tout simplement.
Sur le papier.
Ouais,
en fait, moi, je pense que le problème, c'est qu'on a énormément de lois en France, outre les lois sur l'expérimentation animale. Et souvent, c'est des lois un peu sur papier où on a noté ça, entre guillemets, oui, c'est punissable, etc., etc. Mais c'est pas vraiment appliqué. Et moi, j'ai peur que ce soit ça. Certes, il y a plein de lois, etc., etc. Après, même s'ils sont très bien logés, très bien nourris, etc., etc., on en vient quand même à les tuer à la fin de l'expérience à 99% des cas, entre guillemets. Enfin, 90, 99, je sais pas.
Et c'est ça le plus grave pour moi aussi, c'est que du coup, on va, ok, les loger, tout ça, on va prendre soin d'eux, mais à la fin, bah, en fait, c'est juste des animaux qui sont juste là pour tester quelque chose et juste bah, mourir après.
C'est ça, c'est histoire de dire, bon, on leur a mis un petit coussinet, ils sont confort, ils vont bien vivre, mais au final, c'est quand même une bonne piqûre, des bons petits savons.
Un problème de conscience en soi.
C'est ça. Ça
que tu veux dire. En fait, on rend le truc plus beau.
Ouais, c'est ça, un peu une,
que ça dérange moins.
Une prison un peu dorée, tu vois. Voilà. Un peu bon, bah.
Et puis surtout, voilà. C'est par rapport, je pense, à... on a bien présenté les choses pour les humains.
C'est ça.
On a bien communiqué sur le fait que, regardez, on prend soin d'eux, etc. Sauf que, est-ce que c'est vraiment pour l'animal qu'on fait ça? Ou est-ce que c'est pour pas que d'autres humains nous jettent la pierre, quoi?
C'est ça, exactement. C'est pour un peu qu'on n'ait pas trop de poursuites, le réconfort et tout.
Et je crois que c'est vraiment pas comme ça toute l'année. C'est vraiment quand
on communique dessus,
voilà,
quoi.
C'est ça.
Ouais.
Ouais. Après, oui, ça, moi, je trouve ça très intéressant. Pardon, moi je trouve ça très intéressant ce que tu dis, c'est est-ce qu'on fait ça vraiment pour le bien-être animal ou pas? Et c'est vrai que ça suscite énormément de questions, ouais. On peut le voir de plein de manières, il y en a qui diront que c'est juste pour éviter que de blâmer les laboratoires, il y en a qui diront que c'est vraiment utile et que ça fait avancer la recherche médicale.
Le fait de leur donner des petits coussins?
Bah le fait de leur donner des petits coussins, ça pourrait permettre de pousser entre guillemets les laboratoires d'expérimenter sur des animaux, parce que du coup ça serait moins mal vu et du coup ça ferait peut-être plus avancer, mais comme on l'a vu, ouais, dans 9 cas sur 10, ça sert à rien, donc
mais après, dans tous les cas, moi je trouve que c'est quand même nécessaire de garder les animaux pour faire des expérimentations et tout, donc vaut mieux les rendre confortables, quoi.
Oui, d'un autre côté, c'est des animaux, enfin, tu vas les sélectionner comme ça, genre, ok, lui, il va servir à faire notre expérience, là, il va pas mal souffrir, c'est un petit peu,
C'est pour la conscience de l'humain, en fait.
Et puis c'est aussi pour se dire, ouais, vite fait, oh, bah, vas-y, je vais l'utiliser, bah, je vais le mettre bien, quoi, je vais le mettre bien, mais d'un autre côté, je vais le tuer, enfin... C'est, ouais. C'est comme s'ils vivaient, c'est un petit peu comme on parlait la dernière fois, enfin il y a quelques instants, de si par exemple on devait tester sur un humain un médicament, est-ce qu'il est en phase terminale d'une maladie et il va tout faire pour vivre, donc il va tester? Ou est-ce qu'il sait qu'il va vivre encore pendant, je sais pas, 6 mois, et donc pendant ces 6 mois, il va vivre à fond? Bah, là, c'est un petit peu, on sait que l'animal, on va le tuer. Donc, bah, juste avant, on va le mettre bien, comme ça il va bien profiter et après il va bien souffrir, quoi.
Faudrait reprendre le fait que le chien il puisse communiquer avec des boutons, on le met sur les rats et puis on leur demande leur avis directement, ça pourrait être pas mal.
Je sais pas si sur des rats ça marche, faudrait tester, mais tester. Elle a quand même mis des mois à faire apprendre à son chien 48 boutons, donc je sais pas si pour les rats... Ouais. Mais ouais.
Mais après, on voit quand même que les animaux, enfin là on est beaucoup sur les alternatives, etc. D'ailleurs, je vais en parler après dans ma prochaine partie. Mais c'est quand même indispensable, parce que même quand on a par exemple une personne qui se porte volontaire pour une expérimentation et être rémunérée, jamais la personne va être la première, entre guillemets. Il y aura toujours un test avant qui aura été fait sur d'autres choses, ou que ce soit sur les animaux ou autrement. Mais jamais on va tester sur un humain un premier truc qui sort de nulle part. C'est pas possible. C'est pas sécurisé.
Ouais, c'est vrai.
Donc il faut toujours un avant, entre guillemets.
Est-ce que on peut passer du coup à la suite?
Ouais. Bah du coup là c'est sur ma partie, donc finalement là on est toujours sur la radiographite et on est toujours sur la question de l'expérimentation animale. Et cette fois on va parler un petit peu toujours les alternatives, avec le point de vue des défenseurs qui est bien distingué et le point de vue du gouvernement et des scientifiques. Donc les défenseurs des animaux, on voit qu'ils sont de plus en plus impliqués. Angelina en a déjà parlé, comme PETA France ou PETA France, je sais pas vraiment comment on prononce. Mais en fait, ce sont des associations qui restent insatisfaites des avancées en faveur du bien-être des testeurs, donc des animaux. Toutes ces associations, en fait, elles souhaitent arrêter totalement l'exploitation et la mutilation des animaux donc en laboratoire, donc c'est-à-dire leur mort finalement. Et selon eux, de nombreuses alternatives sont plus rapides, qui sont moins coûteuses et qui sont pas parasitées, c'est-à-dire qu'elles vont être beaucoup plus fiables, qui existent aux expériences sur les animaux, et on va en citer quelques-unes. On en a déjà cité plusieurs, donc avec Antoine, juste avant. Par exemple, une méthode donc, impliquant l'utilisation donc, des cellules et tissus humains, c'est une méthode qu'on appelle la méthode in vitro. Et en fait, c'est une méthode qui s'appuie sur des puces ou des cellules de sang qui vont être prélevées et donc utilisées pour prédire en fait, les réactions humaines dans la recherche des maladies, les essais des médicaments et les tests de toxicité. Une autre technique dont on va parler, c'est cette fois une méthode in silico ou in silicio, je ne sais pas vraiment comment on le prononce. Et c'est en fait une technique avancée de modélisation par ordinateur. Donc en fait, ce sont des avancées qui vont utiliser une modélisation informatique de pointe qui va simuler en fait une sorte de biologie humaine et qui va montrer en fait justement tout ce qui est progression des maladies et en fait ce qu'on appelle finalement la relation quantitative structure-activité. Donc c'est un peu long, donc on va appeler ça méthode in silico, c'est plus simple. Et la dernière méthode, c'est la méthode dont on a déjà mille fois parlé. On l'a eu dans les interviews de la part d'Antoine, et même dans le débat, en fait, ce sont les méthodes d'études sur les sujets humains volontaires. Et c'est des méthodes qui sont appelées micro-dosage et qui peuvent fournir des informations vitales sur la sécurité d'un médicament expérimental. C'est-à-dire qu'en fait, on va tester sur une personne, entre guillemets, consentante, des produits qui vont être testés par ailleurs. C'est-à-dire que ça va assurer, entre guillemets, la sécurité d'une personne. Et on va étudier la manière dont ce produit est métabolisé chez l'humain avant des essais sur des humains à plus grandes échelles. C'est-à-dire qu'on va tester sur une personne pour après, au final, voir ses réactions et voir comment ça va impacter tous les hommes, entre guillemets, après la commercialisation. Cette fois, donc, on va parler de l'avis des scientifiques et des gouvernements sur la question. Donc un avis qui est, entre guillemets, plus important, finalement. Dans cette partie, en fait, on va évoquer différents points de vue en faveur de la substitution, le contrôle ou même l'arrêt total de l'expérimentation sur les animaux. Donc par exemple, pour PETA, on avait cette fois, on n'utilise plus du tout les animaux, on change totalement, on utilise trois autres méthodes. Alors que là, le gouvernement est quand même plus mitigé parce qu'il sait finalement qu'on peut pas... qu'on ne peut pas arrêter d'utiliser les animaux et en fait, on va plus être sur des alternatives comme l'a dit Antoine, mieux accueillir les animaux, mieux gérer nos expérimentations, etc., etc. Et en fait, tout d'abord, on a deux grands noms du milieu médical, comme le professeur Michael Bowles, qui est à la tête de laboratoire de référence de l'Union européenne et pour la promotion, finalement, des méthodes de substitution à l'expérimentation animale. En fait, puisque les expérimentations sur les animaux, elles coûtent cher, elles restent très cruelles et mènent dans la plupart des cas, comme l'a bien dit Angelina, à des résultats qui sont faussés, inapplicables aux humains. Le but n'est pas d'éliminer en fait complètement les tests sur les animaux, mais de les réduire ou de les substituer. En fait, comme on l'a vu dans notre petit débat sur les Doc Martens, très beau débat d'ailleurs, face à de nouvelles exigences éthiques, on a d'importantes avancées ont été réalisées donc depuis le 19e siècle, grâce à l'application de la règle dite des 3 R. En fait, c'est un principe d'utilisation éthique des animaux dans le cadre de la recherche scientifique qui est élaboré en 1959 par les scientifiques Russell et Birch. Et en fait, grâce à cette approche, on a une directive, donc 210-63, une directive donc, qui est gouvernementale sur la protection des animaux dont la science énonce clairement l'objectif final de remplacement total de l'expérimentation animale. Finalement, après tout ce blabla, je vais expliquer la règle dite des 3 R. À quoi elle consiste? Donc les 3 R, comme le nom le précise bien, c'est 3 R. Hein. C'est remplacer l'animal vivant par des modèles, donc on a vu in vitro, in silico, avec des cellules ou la bioinformatique, avec l'utilisation de puces qui reproduisent le fonctionnement d'organes. Le deuxième R, c'est réduire le nombre d'animaux par le rejet de leur utilisation dans les études non indispensables. Comme l'a bien évoqué Angelina, encore une fois, on n'a pas forcément besoin d'animaux dans tout ce qui est maquillage, entre guillemets, cosmétiques et luxe. Donc ça, vraiment, on va, entre guillemets, dégager ça. Et là, le dernier R, c'est raffiner les méthodes expérimentales par le choix réfléchi des modèles et des protocoles. Donc ça, c'est ce qu'a dit Antoine. C'est l'enrichissement du milieu de vie des animaux, entre guillemets, avec le petit coussin, Et c'est la formation appropriée des personnel en contact avec les animaux. C'est-à-dire que il faut que la personne soit formée, elle ait un minimum de connaissances sur les animaux pour pouvoir justement en approcher et pouvoir faire des expérimentations. C'est pas juste un scientifique qui est là, qui prend son rat, bam, il pique et c'est fini. Et en fait, malgré en fait, le problème avec cette volonté de faire changer les choses, il subsiste toujours de nombreux problèmes. En effet, les chercheurs ne peuvent pas encore produire des vaccins à usage humain par simulation informatique, comme l'a bien dit Antoine, reproduire des maladies complexes dans une culture cellulaire ou évaluer le fonctionnement d'un foie dans une éprouvette. Pour ce qui est du cas de la réglementation européenne, donc régissant la recherche sur les animaux, celle-ci n'a que très peu changé les choses. Donc comme on a dit, un peu les lois sur le papier, quoi. C'est très joli, c'est très beau sur le papier, mais en vrai, quand est-ce que ça se fait en fait ? Et en fait, le problème, c'est qu'il manque énormément de financement. C'est pas plus sur cet effet de, entre guillemets, greenwashing, entre guillemets, on veut mettre les petits animaux sur des petits coussins, on veut les aider, on veut les aimer parce qu'on a une demande grandissante. C'est juste parce qu'en fait, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, donc on n'a pas d'infrastructure, donc on ne peut pas mettre des choses en place. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de calendrier qui est prévu et qui est précis pour remplacer toutes ces structures expérimentales. C'est-à-dire qu'en fait, on est là, on prévoit des choses, mais on n'a pas les structures ni le financement pour. Donc c'est assez compliqué. On a aussi des approches qui sont incohérentes plutôt, entre réglementation et les agences concernées. C'est-à-dire que le gouvernement met en place des lois, des textes, mais le problème, c'est que les entreprises ne sont pas forcément d'accord, quoi. Tu peux très bien avoir des lois. Si toutes les entreprises de l'expérimentation animale sont contre, ça va être compliqué de faire avancer ta loi, quoi, même si c'est illégal. Finalement, en conclusion de ce bref paragraphe et ce bref blabla, entre guillemets, on aura pu voir dans toute notre émission que si l'expérimentation donc sur les animaux est très utilisée, voire souvent indispensable, il est primordial de s'interroger réellement sur le côté éthique de la question. Si dans nos interviews que Antoine a passées précédemment, beaucoup étaient contre, par exemple avec les deux filles et le monsieur interrogé, on retrouve souvent l'idée que nous devons faire des tests sur les souris et rats. Et que bon, c'est des souris, c'est des rats en soi, bon, c'est des petits animaux quoi. On n'est pas vraiment sur cette approche de l'animal domestique. Mais si cette fois, nous prenions des animaux de compagnie comme les chiens ou les chats pour faire nos expérimentations. Par exemple, je ne sais pas si vous avez des animaux ici. Vous n'avez pas des animaux ?
Pas d'animal, non.
Moi, personnellement, j'ai un chat. Et imaginons, on prend mon chat, on dit, bon, bah lui, il a l'air bien. Il a l'air bien en forme, il est bien dosu. On va le prendre, on va faire notre expérimentation sur lui, on va voir ce que ça fait. Bah forcément, je serai contre, parce que c'est mon chat, j'ai une attache émotionnelle pour cet animal. Et vu que je suis plus empathique avec lui, eh ben, je verrai beaucoup plus le côté négatif de faire une expérimentation sur lui. Et au final, on va lui tordre le cou, on va le buter. Donc, on va le tuer, pardon.
Sur les chiens en général, je pense.
C'est ça. Ouais. On est beaucoup plus sensible sur des animaux qui sont, entre guillemets, proches de nous, domestiques, où on a cette approche de... Bah, c'est des animaux qui sont faits pour être aimés, adoptés, etc. Alors que les rats, on se dit souvent, et les souris, bon, c'est une souris, c'est un rat, on en trouve partout, dans les égouts, voilà. Qu'on les tue ou pas, qu'on fasse des expérimentations, c'est pas bien grave, quoi. Et vous en pensez quoi, finalement, de tout ça ?
En soi, moi, ce que je pense, c'est que oui, si par exemple, on voit un chat, on voit un chien qui est victime d'une expérimentation en laboratoire, forcément, en plus, si on a des animaux de compagnie, mais même sans, on va se dire « Oh là là, c'est inhumain ce qu'ils font », parce qu'on va répercuter tout ça dans notre vie quotidienne. On va se dire « Oh bah regardez, là c'est le chien de mon ami, je sais pas. Imagine, il a été trié sur le volet, bam, on l'a pris. » Ben, on va lui faire une piqûre. Mmh. Enfin, voilà, quoi. Je pense que c'est ça aussi. Et puis, comme je l'avais dit précédemment, dans l'histoire, il y a eu des expériences sur des chats, sur des chiens. Et ça, enfin, les gens, ils ont très mal réagi à ça. Ils étaient là, non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est cruel. Et c'est vrai que, on parle de plus en plus du fait que c'est cruel de le faire sur les souris, sur les rats. Mais on en parle beaucoup moins que si on l'avait fait sur des chats ou des chiens, quoi.
C'est ça. Et après, même pour s'éloigner un petit peu de l'expérimentation animale, on voit très bien que les animaux, entre guillemets, domestiques, ont une importance majeure dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'on a carrément une police dédiée à ça. Ils sont en train de créer une police pour gérer tout ce qui est côté maltraitance animale. Et se dire que, moi, je suis totalement d'accord avec cette police, c'est très grave. Et que, en fait, les animaux domestiques ont une si grande importance pour nous, émotionnellement, du coup, il y a une police faite pour ça et qu'il faut arrêter, entre guillemets, de les frapper, de les maltraiter. Pourtant, d'un autre côté, on va enfermer des rats dans des cages, on va les tester, on va les tuer. Enfin, c'est assez...
Ouais, c'est un peu antithétique, ouais.
Je crois que la police, elle s'étend de plus en plus. Parce que, par exemple, tu sais, les poissons dans les parcs d'attractions.
Mm-hmm, ouais.
Avant, ils étaient autorisés. Maintenant, c'est illégal d'avoir des poissons là-bas. Donc, en soi, ça s'améliore de petit à petit.
Mais même les cirques, je crois que c'est interdit maintenant. Les cirques avec les animaux, ils ont fait passer une loi.
Alors, c'est interdit, mais ils ne doivent pas relâcher les animaux directement. Il me semble que c'est interdit, mais ils doivent plutôt laisser mourir les animaux. Non, justement, en fait, ils doivent les garder. Et quand ils sont morts, ils n'ont juste pas le droit d'en reprendre. Parce que en fait, c'est des animaux qui ne sont pas capables de se réadapter dans un milieu naturel. Donc, il y a eu cette question-là, justement, et l'alternative qui a été trouvée. Parce que du coup, ils n'ont plus le droit de se fournir en animal. Mais du coup, ils doivent garder ce qu'ils ont et juste finir avec eux, quoi.
Ouais. Et est-ce que, du coup, les animaux qu'ils ont déjà, est-ce qu'ils sont autorisés dans les représentations ou est-ce que c'est juste...
Ils sont autorisés dans la représentation, okay. Oui. Sinon, t'as un tigre qui est là.
Dans ta cage, il t'attend, qu'il a coucou.
Au cas où, tu l'as et puis tu dois prendre soin de lui ou alors c'est vraiment... Il sert quand même pour le cirque, quoi.
Non, il a le droit de servir, du coup. Bah, parce qu'en fait, il a été préparé pour ça depuis tout petit, donc... Ouais. En fait, ce qui pose problème, c'est surtout le prélèvement d'animaux naturels, enfin naturels, sauvages, en fait.
Okay. Mais après, pour revenir sur l'expérimentation animale, on a très bien vu par tout ce débat que finalement, même si on voudrait tout changer, entre guillemets, et que ce soit moins testé, le problème, ça reste quand même les financements de l'État, les financements du gouvernement, les réglementations, etc., etc. Et je pense que tout le monde se rend compte un petit peu de plus en plus, comme on l'a vu dans les interviews, que c'est mal, entre guillemets, de tester sur les animaux. Mais en fait, il faudrait les moyens pour, pas juste des textes de loi. Et au final, en fait, cette idée, elle est évoquée tout au long de l'émission pour finalement conclure sur l'impossibilité totale de pouvoir remplacer les animaux dans les laboratoires, malgré donc l'incertitude des résultats sur les hommes. Et ainsi, la morale et l'émergence des questions éthiques des citoyens nous poussent donc à encadrer et réglementer de plus en plus ces pratiques. Et je pense que c'est bien de faire une petite conclusion sur ça, que voir que si on veut penser un petit peu l'animal dans son côté moral et éthique, faut voir que on devra quand même l'utiliser dans certaines expériences, quoi. Donc même s'il y a des alternatives.
Je suis d'accord avec toi.
Voilà. Si tout le monde est d'accord, c'est bien.
Bon, je pense qu'on peut conclure l'émission. Est-ce qu'on parle de la prochaine
Ouais, on peut.
Ouais, parce que...
Alors, on vous donnera rendez-vous bientôt pour une prochaine émission sur le crédit social chinois, où on parlera aussi, on fera des petits débats. Voilà. Alors, à la prochaine.
Salut.
Salut, salut. Au revoir.
Ouais, mais coupe-toi, toi.